dès lundi et jusqu'à nouvel ordre.
Quel silence, hein.
Il veut nous guérir du coronavirus à travers l'écran.
Il n'y a pas de virus, il n'y a rien du tout pour moi, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, comme les grippes, comme d'habitude, rien. Voilà.
Ça va?
Oui, très bien.
Petit coup de coude, même à distance maintenant.
Je suis tout même assez, moi.
Ça va alors?
J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre.
Je veux dire, la vague arrive, elle va arriver ici et ça va secouer sérieusement.
Aujourd'hui, on sait très bien que la situation sanitaire, elle est grave.
À partir de ce lundi, jusqu'à nouvel ordre.
Jusqu'à nouvel ordre. Le journal de bord et des débordements des bénévoles de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi à 19h.
Valérie Pécresse, Marlène Schiappa et Bruno Retailleau ne semblent pas partager grand-chose dit comme ça. Mais une expression les relie pourtant, l'hystérisation du débat. L'hystérie, ça fait peur, l'hystérie, ça évoque quelque chose d'incontrôlable. Et à raison, car c'est un terme clinique issu de la psychanalyse. L'hystérie se définit dans le Larousse comme une structure névrotique de la personnalité, caractérisée par la traduction en symptômes corporels variés de représentations et de sentiments inconscients, c'est charabia très médical. Une maladie de l'âme, en somme, qui ferait convulser les personnes qu'elle touche. Mais alors, qui peut-elle bien toucher? Et surtout, comment s'en protéger? Rassurez-vous, seule la moitié de l'humanité serait concernée, comme le laisse présager son étymologie. Hystérie, ça ne vous dit rien? Pensez au corps humain. Remplacez les sons en « i » par des sons en « u ». Et vous voilà de retour en cours de biologie au collège, puisqu'il s'agit bien ici de parler d'une affection psychologique qui serait provoquée par l'utérus, ou du moins les entrailles d'une femme. Du grec ancien hystère ou hystéra, l'utérus était pour Hippocrate un organe agissant comme un animal dans le corps de la femme, se déplaçant dans le corps en le faisant vibrer, de quoi expliquer ses humeurs changeantes. Cela semblait sûrement logique à l'époque, mais l'hystérie doit surtout sa popularité au légendaire Sigmund Freud qui, pourtant, d'après ses écrits, ne considérait pas que cette névrose touchait exclusivement des femmes. Il aurait peut-être fallu partir d'une autre racine grecque alors pour désigner cette affection, car, cher Sigmund, les mots se répandent et passent au fil du temps dans le langage commun. Du trouble psychiatrique aux remarques et aux insultes décrédibilisant la colère ou l'énervement d'une femme, l'hystérie voyage dans des bouches plus ou moins conscientes. Nous n'avons pourtant pas eu besoin d'attendre l'arrivée des études de genre à l'université pour se rendre compte que l'emploi des attributs féminins dans le langage est rarement positif. La femme est après tout une pécheresse. Mais alors, comment des personnalités politiques et des médias se sont-ils retrouvés à parler de l'excitation névrotique du débat public? Le débat aurait-il un utérus? Jusqu'à preuve du contraire, un débat n'est fait que de la chair et des os des personnes qui l'animent, des personnes qui auraient finalement plutôt intérêt à parler de la crispation, de l'agitation ou de la frénésie d'un échange verbal ou d'un sujet. L'hystérie a d'ailleurs disparu des ouvrages médicaux, une preuve qu'il faudrait peut-être laisser les femmes et les pathologies psychiatriques en dehors de tout ça. Vous êtes sur le 93.9 FM, bienvenue dans Jusqu'à Nouvel Ordre.
Jusqu'à Nouvel Ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Et bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de Jusqu'à Nouvel Ordre, la version confinée de la matinale de 19h, nous parlerons tout d'abord des droits de l'homme en France comme à l'international, et nous ferons le point ce soir sur ce combat grâce à nos deux invités qui sont membres de l'association Amnesty International, Elsa Trémer et Anne-Sophie Saint-Père. À 19h37, nous écouterons avec attention le reportage qu'Adrien Mathieu a réalisé pour nous sur le rap. On a hâte. Enfin, à 19h49, l'émission sera clôturée par une chronique de Pauline Rossano sur Indice. Un événement qui survient tous les mois. Vous avez le programme, installez-vous confortablement, prenez une tisane, vous êtes sur Radio Campus Paris.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Et pour démarrer donc cette émission, parlons de comment il est possible d'aujourd'hui d'incarner la lutte pour les droits de l'homme à la veille de la Journée internationale des droits de l'homme, justement. Nous recevons pour discuter de tout cela ce soir Elsa Trémer, qui est responsable du programme Défendre les personnes chez Amnesty International France. Bonsoir à vous et merci de venir témoigner à notre antenne.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Avec grand plaisir, et pour m'épauler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Tom Nouvian de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Tom.
Bonsoir Léa, bonsoir à tous. Alors oui, première question pour rentrer directement dans le vif du sujet, Elsa Trémer. On va parler de l'initiative 10 jours pour signer qui nous vient d'Amnesty International. Je vois sur le site internet qui a écrit « Agir pour les personnes dont les droits sont bafoués ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça veut dire et on a 10 jours pour signer, pourquoi en fait?
Du coup, c'est une initiative mondiale. Tout d'abord, c'est Amnesty International dans le monde entier qui a décidé qu'il était important autour du 10 décembre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la Journée internationale des droits de l'homme, de parler de l'ensemble des droits humains. Aujourd'hui, enfin cette campagne en fait qui dure 10 jours en fait, qui a commencé la semaine dernière. L'idée principale, c'est de se mobiliser pour 10 personnes dont les droits sont bafoués à travers le monde, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la crise sanitaire, on parle beaucoup de ce qui se passe à travers le monde lié à la crise sanitaire, et on plus que jamais il nous semble important de mettre en lumière les violations des droits humains à travers des situations diverses. Cette campagne, en fait, elle a lieu tous les ans depuis 18 ans et on gagne des victoires avec cette campagne. L'année dernière, en fait, on a défendu notamment Magaï, qui était un jeune homme du Sud-Soudan, qui a été condamné à la peine de mort alors qu'il avait seulement 15 ans. Il y a eu à peu près 700 000 personnes se sont mobilisées pour lui, et en avril, sa peine a été annulée. Nous, on continue à croire que... on doit défendre des situations individuelles et que chaque geste compte. Et donc, du coup, on propose chaque année et encore cette année de défendre des personnes au Chili, en Colombie, au Burundi, en Turquie et dans de nombreux pays.
Et est-ce que vous pouvez justement nous raconter la genèse de cette campagne? Du coup, ça fait 18 ans que vous la menez, mais comment est-ce qu'elle est née? Moi, j'ai lu quelque chose par rapport à des personnes d'Amnesty à Varsovie.
Et tout à fait. En fait, il y a 18 ans, des militants et des militantes d'Amnesty à Varsovie se sont dit qu'il était important de militer en fait pour le droit des personnes. Et elles ont décidé de faire un marathon des signatures. Et elles ont été dans des dizaines d'écoles. Et elles ont demandé à des collégiens, des lycéens, des étudiants d'écrire des lettres pour soutenir des personnes à travers le monde dont les droits étaient bafoués. Ça nous a donné des idées parce que ça a très très bien marché. Et du coup, cette campagne est devenue mondiale depuis 2011. Et du coup, c'est vrai que rien que l'année dernière, on a eu à travers le monde 6 600 000 actions qui ont été menées. Alors quand on dit action, on parle d'actions d'interpellation des autorités à travers le monde, mais aussi des actions de solidarité. Parce que du coup, c'est une des missions d'Amnesty d'interpeller les autorités quand les droits sont bafoués. Mais en fait, on s'est aperçu que c'était aussi très très important de soutenir les femmes et les hommes qui soutiennent les droits humains dans le monde. On a des témoignages, notamment de prisonniers, qui nous racontent qu'à leur sortie de prison, ce qui les a fait tenir en partie, c'était les centaines et centaines de lettres qu'ils ont reçues de personnes à travers le monde qui leur permettaient en fait de garder le moral.
Elsa Tremer, vous disiez tout à l'heure que vous parliez d'un marathon de signatures, chaque geste compte également. On peut voir même sur le site internet de Amnesty International qui a écrit une lettre, une signature, un email, tout ça, la somme de toutes ces choses-là peuvent vraiment faire changer les choses. Comment est-ce qu'on fait comprendre ça à des gens qui voudraient signer dans le monde entier vos pétitions? Comment on fait comprendre que chaque petit geste compte justement? Surtout dans un contexte de crise sanitaire en ce moment où les gens sont peut-être un peu repliés sur eux-mêmes.
Voilà, c'est une excellente question. Alors en plus, par ailleurs, c'est vrai que nous, on compte beaucoup sur la mobilisation de nos militants et nos militantes qui, à cette époque de l'année, sont sur les marchés, dans les écoles, dans les universités pour faire signer et convaincre les uns, les unes, les autres de signer des pétitions, d'écrire des lettres ou d'envoyer des cartes de solidarité. On est confronté effectivement cette année au fait que ça devient plus difficile. Donc on insiste sur via une campagne digitale, et en fait on a nos militants et nos sympathisants qui mobilisent les gens à travers les réseaux sociaux, mais pas que. On a des influenceurs et des influenceurs qui ont accepté de s'associer à notre mission pour prêcher un peu la bonne parole, si on peut dire. Et on essaie aussi on continue quand même de travailler à la promotion des droits humains via des actions de sensibilisation, parce que les écoles sont encore ouvertes. Donc nous avons des militants et des militantes qui continuent à parler des situations dans les classes. Les situations qu'on va défendre là pendant ces 10 jours ne seront pas résolues après les 10 jours, et on s'autorise en fait cette année pour de continuer la campagne au-delà pour défendre ces 10 personnes.
Si on s'intéresse un petit peu au cas de la France, même si les sujets sont internationaux, comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser le public de signataires français à des cas internationaux qui sont peut-être un peu moins médiatiques? Malheureusement, je pense au cas des Ouïghours qui sont tristement médiatiques et qui du coup, le public français est très sensibilisé à ça. Mais dans les listes des 10 plus cas composés par votre pétition Amnesty International, il y a beaucoup de cas qui sont peut-être éloignés de l'intérêt des Français. Comment on fait justement pour piquer la curiosité et amener jusqu'à la signature ?
Bah, peut-être qu'une des premières choses, c'est que l'avantage de cette campagne, c'est qu'on parle d'histoire des gens et on parle des histoires, en fait, des personnes. Je pense qu'on a notamment le cas des trois jeunes de Hellul Blue, en fait, qui sont des personnes réfugiées, en fait, qui ont été arrêtées parce qu'ils ont voulu aider d'autres réfugiés et qui sont en attente de leur procès. En fait, je pense que c'est des choses qui parlent aux gens. Et du coup, on part des histoires, en fait. Et les gens, ils sont sensibles à violations qui sont, par exemple, en Algérie, on a Khaled Drahremi, journaliste, qui est condamné à 3 ans de prison. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la situation des journalistes en France. Et bien, du coup, en fait, ce qui se passe en Algérie, en fait, c'est aussi une attaque à la liberté d'informer. Quand on parle des interdictions, des marches de fierté en Turquie, je pense qu'un certain nombre de personnes sont aussi sensibilisées à cette question-là. C'est vrai que cette année, on fait toujours de ce qu'on appelle de l'éducation aux droits humains. Et l'éducation aux droits humains, ce n'est pas seulement pour les enfants, c'est pour l'ensemble des personnes, en fait. Et du coup, on est un peu, enfin, un peu plus compliqué, effectivement, cette année de parler de tout ça. Mais on compte, en fait, sur le fait que, encore une fois, chaque geste compte, en fait. Donc, une personne qui signe une ou deux pétitions et qui se sent sensibilisée par une situation et qui en parle à 3 ou 4 personnes autour de soi, c'est déjà un geste énorme.
Et donc vous parlez de créer ces ponts, ces liens justement entre des populations différentes, entre des gens qui vont aller signer des pétitions et des personnes qui malheureusement voilà, subissent des injustices. Et est-ce que vous pensez qu'incarner voilà, ces combats, cette lutte pour les droits de l'homme, c'est quelque chose qui fonctionne? Est-ce que justement c'est ce que porte cette campagne précisément, où quand on clique en fait dessus de manière très concrète, quand on tape cette recherche en fait sur Internet, on tombe sur le visage des gens qui sont ouais. concernés.
Tout à fait. Pour nous, c'est cette campagne en particulier, mais on croit fortement. En fait, on traite des sujets complexes à Amnesty International. Et du coup, parler d'une histoire d'une personne, c'est sensibiliser un peu à des sujets un peu plus larges. Quand on parle du cas de Yanni Silva, qui est une défenseure des droits colombienne, qui défend le droit de la forêt et qui est une femme paysanne qui risque la mort parce que une entreprise la menace de mort, parce que des groupes armés la menace de mort, on peut parler en fait de l'impact des entreprises sur la forêt amazonienne et ce genre de choses qui sont des sujets complexes. Donc nous, l'incarnation, en fait, c'est aussi permettre de parler de sujets complexes à travers des histoires difficiles, mais qui sont importantes. Ce qu'on pense aussi, c'est que quand on défend une personne, on défend tous les droits humains, on défend toutes les personnes. Quand on défend Tatiana Areva, qui est une femme médecin en Russie, qui est lanceuse d'alerte, elle a alerté dans son hôpital sur le fait qu'il n'y avait pas de matériel de protection sanitaire pour les soignants. Elle a été victime de représailles, elle est menacée d'être licenciée de son hôpital. C'est tous les soignants et soignantes qui luttent pour les droits des soignants qu'on défend. Et on croit vraiment en ça à Amnesty International, c'est que du coup, en incarnant, en protégeant une personne, on protège toutes les personnes.
Alors justement, pour centrer un petit peu sur l'actualité, il me semble que dans les 10 cas que vous promeuvez dans cette pétition, il y en a un qui s'intéresse à la Turquie et à la condition des personnalités LGBTQI+. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce cas-là, en tout cas pour les auditeurs, pour les mettre un peu, les sensibiliser à ce qui se passe?
En fait, on parle de la solidarité, enfin le groupe Solidarité LGBTI+, qui est un groupe d'étudiants de l'université de Otu à Ankara, qui travaille sur, qui lutte contre les préjugés pour les personnes LGBTI+. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que ils ont été victimes de harcèlement. Mai 2019, quand ils ont voulu organiser la marche de fierté qu'ils ont organisée depuis 2011 sans souci, la marche a été interdite. La marche a été interdite. Ils ont subi des violences policières. Et aujourd'hui, en fait, ils passent en procès. Ils sont accusés d'avoir pris part à un rassemblement illégal et d'avoir refusé de se disperser. C'était en mai 2019. Un juge d'Ankara a dit en juillet 2020 que l'interdiction de la marche était illégale, mais ils sont toujours poursuivis et leur procès est demain matin, donc à Ankara, et ils attendent leur verdict. Et plus que jamais, ça peut paraître un temps très court, mais se mobiliser et signer une pétition pour eux aujourd'hui, c'est important. Mais aussi, en fait, et c'est ce qu'on propose à Amnesty International, c'est qu'ils vivent un acharnement judiciaire depuis des mois, et de pouvoir les soutenir. Et en fait, ils sont sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter, sur OdTuLGBTI, ODTULGBTI. Et en fait, on est en train de leur envoyer des milliers de messages en anglais pour leur dire que leur combat est juste. Et ça, c'est important pour eux aussi, parce que demain, ils risquent jusqu'à 3 ans de prison. Et on a besoin de leur dire aussi que leur combat est important.
Alors, vous parlez d'un compte Twitter, d'un compte Instagram, et puis on voit également la pétition qui est vraiment assez bien achalandée sur Internet. Est-ce que vous pensez que l'avenir du militantisme, en tout cas d'Amnesty International, est vraiment en lien avec les nouvelles technologies pour toucher des nouveaux publics?
Moi, je pense que la diversité des actions, en fait, c'est ça l'avenir du militantisme. En fait, on pourra clairement, en fait, dans le travail que l'on fait à Amnesty, on identifie un peu quelle est la meilleure solution. Aller devant une ambassade pour protester notre mécontentement, ça restera une action qui est nécessaire. Mais c'est vrai que un courrier en Iran, en fait, le courrier ne va pas arriver. Disant au gouvernement iranien que ce qu'ils font c'est mal, en fait ça reste quelque chose d'important, parce que c'est très dur de militer par exemple en Iran, et du coup ils sont très attentifs à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc du coup c'est une question de quelle tactique on va choisir. Donc les nouvelles technologies, oui, mais accompagnées d'un travail de terrain, et notamment de sensibilisation auprès des jeunes et des moins jeunes qui pour permettre de mieux comprendre et de mieux défendre ses droits aussi.
Et un grand merci Elsa Trémère d'avoir été avec nous pour cette première partie de cette émission consacrée à la lutte pour les droits de l'homme, lutte que porte votre association Amnesty International, et on continuera de parler des droits de l'homme justement avec une de vos collègues juste après cette pause musicale.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
C'était la magnifique chanson « Les gens qui doutent » de la grande Anne Sylvestre qui nous a quittés il y a peu. Il est 19h, passé de 21 minutes et vous écoutez toujours Radio Campus Paris.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Jusqu'à nouvel ordre sur Radio Campus Paris, nous sommes ensemble jusqu'à 19h55. Les à notre table ce soir, nous accueillons, toujours pour parler de la lutte pour les droits de l'homme, Anne-Sophie Saint-Péré, chargée de plaidoyer liberté, Amnesty International France. Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous avons toujours Tom Nouvian.
Bonsoir, bonsoir à tous.
À mes côtés dans ce beau studio. Donc, pour faire la transition par rapport à cette première partie consacrée à la campagne 10 jours pour signer qui voilà, s'occupe de cas internationaux, moi je voudrais parler du cas de Camille Allu qui faisait partie de la campagne 2019 de 10 jours pour signer d'Amnesty International. Camille Allu, observatrice de la Ligue des droits de l'homme, qui a été justement libérée en partie grâce à cette campagne, et dont le métier est d'observer les violences policières en manifestation, violences policières qui font l'objet de l'actualité aujourd'hui. Et donc cette première question que je vous pose, est-ce qu'Amnesty International considère que la France est un cas particulier en termes de violences policières?
Alors, on ne peut pas dire que c'est un cas particulier, parce que violences policières, il y en a dans de très nombreux pays. Par contre, en France, on a pointé du doigt ce problème depuis longtemps. Hein. Déjà, début des années 2000, on publiait des rapports sur les violences policières plutôt dans les quartiers populaires et plutôt sur des populations perçues comme étrangères. Et ces dernières années, il y a aussi eu un changement dans le contexte des manifestations où il y a eu des nombres inédits de blessés, à la fois côté manifestants et côté forces de l'ordre. Et au moment des manifestations des Gilets jaunes, on compte des milliers de blessés, et puis aussi un niveau inédit dans la gravité des blessures, puisqu'il y a eu des dizaines de personnes qui ont été mutilées dans le cadre de manifestations. Donc ça, c'est assez spécifique. Et si on compare par rapport au contexte européen, la France est aussi un des rares pays, est aussi le seul pays qui a ce type de bilan de manifestations, qui a un armement aussi lourd, et donc ce type de répression.
Anne-Sophie Saint-Péré, je le rappelle pour nos auditeurs, vous êtes chargée de plaidoyer liberté à Amnesty International France. Quelle est votre mission succinctement depuis, je pense, vous avez parlé des manifestations gilets jaunes et là plus récemment l'augmentation des violences policières qu'on a pu voir dans les manifestations. Quel est votre objectif, votre rôle, vous, à Amnesty International?
Alors, mon nom, c'est Anne-Sophie Saint-Péré.
Je m'excuse platement, Anne-Sophie.
Aucun problème. Alors, en fait, moi, je suis chargée de plaidoyer. Donc on travaille de manière très proche avec les chercheurs d'Amnesty International qui sont basés au secrétariat international à Londres. L'idée, c'est de documenter les violations des droits humains dans différents pays. En France, on l'a fait sur les violences policières. Par exemple, on a documenté certains cas de violences policières pendant le confinement. On a fait sur le droit de manifester, on a fait des enquêtes sur les violences. On a fait aussi un énorme rapport sur les arrestations et les poursuites de manifestants pacifiques. Et ensuite, une fois qu'on a identifié ces problèmes, qu'on a montré d'où venaient les violations des droits humains dans un pays, donc là en l'occurrence la France, quelles étaient les lois et pratiques à changer, on va porter des recommandations auprès des pouvoirs publics, on informe la population, on mène un travail auprès des médias aussi pour sensibiliser au sujet. Donc voilà, dans l'idée étant d'obtenir un meilleur respect des droits humains par les pays, et en l'occurrence par la France.
Dans le débat en ce moment, qui est vraiment assez houleux sur les violences policières, à Amnesty International, où est-ce qu'il se place finalement?
Alors nous, on se place du côté du respect des droits humains. On est très inquiet par la situation en France parce qu'on constate, encore une fois, de longue date, hein, des problématiques d'usage illégal de la force qui se sont aggravées, enfin étendues en tout cas ces dernières années. Ensuite, ce qu'on appelle la France à respecter les principes directeurs des Nations Unies sur l'usage de la force. On appelle la France à respecter l'accès à la justice, le droit à l'accès à la justice des victimes. Voilà, il n'y a pas... où est-ce qu'on se place ? On n'est pas dans une situation de camp, hein. Nous, on demande juste le respect des droits humains et on n'est pas non plus dans une situation de choisir pour ou contre la police. Évidemment, il y a de la responsabilité individuelle des policiers, mais nous, on va plutôt s'intéresser à la mission, à la formation qu'on leur donne. Donc, on va plutôt s'adresser à la hiérarchie et aux autorités et, parce que c'est elles qui ont aussi le devoir de faire respecter les droits humains.
Et quel pouvoir peut avoir concrètement une association comme la vôtre ou comme d'autres associations qui s'élèvent aussi en ce moment contre les violences policières? Quel pouvoir, ces actions que vous menez, ces rapports que vous publiez aussi et que vous l'avez rappelé, vous avez publié pendant de très longues années sur ces violences, comment est-ce que des associations comme la vôtre peuvent faire changer les choses? Comment elles peuvent avoir une influence sur le pouvoir décisionnaire en France?
Alors, c'est pas toujours facile. Ensuite, notre travail de recherche, je pense, est assez reconnu pour la crédibilité de nos enquêtes. C'est des travaux de recherche qui sont souvent longs. On a des arguments qui sont assez étoffés. Ensuite, oui, c'est toujours compliqué d'influencer les pouvoirs publics, mais on a aussi tout un volet de mobilisation, de sensibilisation des citoyens qui nous permet de faire pression sur les autorités. On travaille aussi beaucoup avec les parlementaires, par exemple, pour les encourager à prendre des mesures pour défendre les droits humains. Ensuite, c'est pas toujours évident sur les violences policières. Aujourd'hui, je pense que le fait qu'on en parle autant, ça, c'est aussi le résultat de travail d'organisations comme Amnesty International, mais beaucoup d'autres aussi, hein, et aussi de mouvements citoyens, de mouvements de victimes de violences policières. Le fait d'avoir mis ce sujet dans le débat public, on espère que ça va encourager des améliorations.
Alors sur votre travail et sur votre travail de terrain plus particulièrement, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle vous l'avez rappelé, vous êtes reconnu internationalement et vous êtes beaucoup lu. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des observateurs que vous envoyez? Vous compilez des vidéos? Racontez-nous, expliquez aux auditeurs et aux auditrices comment ça se passe pour une association comme la vôtre de travailler sur cette thématique-là.
Alors ça va dépendre de la recherche. J'avais parlé de ce qu'on avait fait pendant le confinement, où on était dans un contexte un peu exceptionnel. Et du coup, là, on a utilisé des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a un Evidence Lab, donc une équipe spécifique qui est basée essentiellement aux États-Unis, qui travaille pour authentifier des vidéos, donc authentifier la date et le lieu. Et ensuite, on a travaillé avec des juristes et nos experts sur les questions de police pour déterminer sur chaque vidéo quelles étaient les violations qui étaient commises. Et c'est par exemple notre Evidence Lab, il a travaillé sur beaucoup d'autres vidéos dans plein d'autres pays. Donc c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup plus facile pour eux de les localiser que quand c'est au fin fond de la Syrie.
Oui, c'est pas pareil.
On a quelques avantages. Ensuite, par exemple, si on prend notre rapport sur le droit de manifester, on a fait quelque chose qui est assez... original, c'est qu'on a fait un appel à témoins large sur les réseaux sociaux et ensuite on a tout un travail de tri, on a eu plus d'une centaine de réponses et on a un système d'entretien, de double entretien avec les chercheurs pour valider et justement aussi authentifier les témoignages. On récupère toutes les pièces, notamment les pièces judiciaires qui nous permettent de vérifier ce que racontent les personnes et de documenter sur papier ou les témoignages médiatiques, les vidéos, etc. encore une fois. Donc voilà, on a tout un travail de collecte de données de cette manière-là. Ensuite, on va aussi voir les autorités. On a des entretiens avec les ministères pertinents, avec les différentes...
Et pour confronter justement tout ce que vous avez trouvé.
Voilà, exactement. On les rencontre toujours dans un premier temps, dans une perspective de recherche, pour avoir leur point de vue, comprendre aussi la manière dont ils travaillent. On a toute une série d'entretiens qui nous permettent d'alimenter nos rapports. Et puis, on travaille aussi beaucoup sur les législations des pays pour s'assurer qu'elles sont conformes aux normes internationales.
Vous parlez d'une initiative d'appel à témoins. Vous avez aussi évoqué une technique de vérification de vidéos. Comment, sur le terrain, comment est-ce que vous envisagez la suite des manifestations assez tendue jusqu'à maintenant entre les échanges entre les manifestants et les policiers. Vous, avec votre regard un petit peu d'experte et puis toutes les initiatives qui sont déployées à la fois par votre association et par les forces de l'ordre, enfin tous les camps pris en compte, comment est-ce que vous pensez que les manifestations en ce moment, sur les manifestations pour la liberté, pardon, vont se dérouler jusqu'à dans le futur, pardon.
Bon, alors il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de manifestations qui se passent bien, parce qu'il y avait quand même de 90 à 100 appels à manifester ces derniers week-ends partout en France, et donc il y a eu énormément de manifestations qui se sont plutôt bien passées. Ensuite, c'est vrai que les images qu'on a vues à Paris samedi dernier, elles étaient inquiétantes, et évidemment, le fait que des personnes commettent des infractions, des dégradations, ça peut être un problème pour les forces de l'ordre. Ensuite, nous, on est très inquiets de la réponse qui est apportée. C'est-à-dire que le phénomène des black blocs ou des casseurs, c'est pas du tout nouveau. Et c'est pas spécifique à la France, absolument pas. Les black blocs, c'est un mouvement qui est né en Allemagne. Dans d'autres pays européens, on les gère autrement. Là, en France, ce qu'on a vu, c'était extrêmement inquiétant. Un usage massif de gaz lacrymogène sur une foule, ça n'empêche absolument pas les black blocs d'agir. Ils sont plutôt bien protégés contre les lacrymogènes. Ça ne permet pas de les interpeller. Par contre, ça va interférer avec le droit de manifester de la majorité des gens qui vient pour manifester de manière pacifique. Donc, pour nous, les forces de l'ordre françaises ont des réactions qui sont extrêmement problématiques. Les stratégies de maintien de l'ordre sont très problématiques. Et on parle souvent d'autres exemples, notamment en Allemagne, ont été très largement confrontés à ce problème, où il y a des stratégies de dialogue et de désescalade qui ont été mises en place pour justement éviter d'avoir à recourir à la force, isoler éventuellement les quelques éléments, les quelques casseurs, mais surtout prévenir les violences et s'assurer que la majorité des manifestants qui sont là pour marcher et revendiquer leurs droits puissent le faire sans risquer eux-mêmes de se retrouver face à des tirs de LBD ou des jets de grenades.
Donc vous pensez qu'on devrait s'inspirer de ces exemples de chez nos voisins européens ?
Oui, tout à fait. En fait, il y a eu une réflexion en Europe, un programme européen qui s'appelait CODIAC, donc c'était sur les bonnes pratiques du dialogue et de désescalade. C'était en 2013, ça a réuni une dizaine de police partout en Europe et des sociologues qui ont travaillé justement sur la manière de faire face aux nouveaux mouvements sociaux, au fait qu'il y avait des rassemblements avec des organisateurs moins identifiés, des mouvements d'occupation, des casseurs, donc des problèmes auxquels beaucoup de pays européens sont confrontés. Mais l'idée, c'était d'éviter de recourir à la force, de désamorcer les situations de tension, que justement la police arrive à faire baisser les tensions et ait un contrôle sur ce niveau de violence pour que ça ne s'enflamme pas. Donc c'est toute la logique de la désescalade. La France n'a pas participé à ce programme.
Eh bien, merci beaucoup Anne-Sophie Saint-Père d'être passée au micro de Jusqu'à Nouvel Ordre, la version confinée de la matinale de 19h. Je rappelle que vous êtes chargée de plaidoyer Liberté Amnesty International France. Belle soirée à vous et merci à Tom d'avoir été à mes côtés pour ces passionnants entretiens.
Oui, je voudrais juste rappeler avant de partir que la campagne 10 jours pour signer de Amnesty International sera prolongée jusqu'au au printemps au moins en raison des conditions sanitaires. C'était important pour les auditeurs, la petite précision.
Donc on vous invite à aller jeter un coup d'œil à ces 10 cas qui sont à retrouver sur le site internet d'Amnesty International. 19h33 à l'écoute de Radio Campus Paris. Tout de suite, une chanson pour réchauffer ce mois de décembre bien froid sur le 93.9 FM.
J'arrive rapide et violent comme une claque de Clark Kent. Rabat au volant du game, c'est parti pour un crash test. Bouge ta graisse, j'tire à vue. 150 MP de prendre une belge perdue. Tu veux test mon gros, t'as pas de cardio. J'suis beaucoup moins mignon après une tête de cardu. Le rap c'est pas la street, c'est que des mots. Sur un beat, on soulève le caillou de ta rue. C'est en tant causer, c'est qui se bat ou qui vient poser. Cherche un freestyle de malade, ils veulent tout savoir de quoi mon corps est composé. Vers l'arrivée du comment, j'suis sorti du tupi. Choqué, tu te demandes, c'est encore du rap ou un tuto bouchi. Posé en haut du totem comme un eagle. J'arrive dans game kick middle, direct au foie, pêche pleine gueule, punisher à la casse. Venu scalper des MC, j'ai aiguisé mes couteaux et mon tomahawk. Tu pensais que le meilleur kicker cette année, je crois que ton joli projet tombe à l'eau.
Dommage,
excusez-moi,
désolé.
Je crois que ton joli projet tombe à l'eau. Pardon, dommage,
désolé.
J'passe en deux spies, étoile filante. Chope le mic, concurrence. Minute de silence, ya ya ya. J'vais casser des hubs, briser des nuques, niquer le truc. Flûte de commande, faut de calage russe. France de créole, le cabonné, tu vois. Comment chez Yen, un page dans la street.
Pas de plume sur le crâne, mais des Air Max 270. Allez leur dire, préviens le shérif que j'arrive dans la ville. Qui vide à beaucoup, il coûtera le faire. On tire sur l'étoile à la Winchester. J'vois le game, j'suis calme de Watt, couvain comme un Twix. Sur la prod, j'casse la démarche comme les Twins. OP c'est furieux, OP c'est vénère, OP c'est futur nouveau M si tu préfères. Croix de bois, croix de fer, si j'mens, j'mens, bah les croyas. Si t'aimes pas, j't'apprécie pas non plus. Comme ça on est quitte, obscène le comment, j'triade la tribu. Complète l'équipe.
Donc on vient de s'écouter Comanche.
Ouais.
Le titre de notre invité qui a sorti un album éponyme d'ailleurs du même nom, donc Comanche. Bienvenue, bonjour Obscène.
Salut, salut, ça va, tranquille?
Ça va et toi?
Tranquillement, tranquillement.
Merci de nous accueillir, on est où là exactement?
Là on est chez moi avec le confinement, vous êtes venus à la maison et c'est où je maquette, où je fais de la musique et que je travaille les morceaux avant de passer en studio plus pro on va dire.
Ok, donc en février dernier il y a ton premier EP qui est sorti,
c'est ça,
donc Comanche, c'était ton premier projet officiel,
ouais.
Sur Twitter, parce qu'on pouvait te suivre sur une scène au début plutôt montreuilloise, où on t'a déjà vu avec le collectif Mira, où on
ouais,
t'a vu sur CD.
Ouais.
Mais là, qu'est-ce qui change vraiment avec ce premier projet officiel comparé à tes projets d'avant?
En fait, à la base, je traînais avec des gens qui étaient sur Montreuil et qui avaient monté une association, qui faisaient pas que du rap, il y avait de la danse, du graphe et tout.
Okay.
Et en fait, après, la vie a fait que j'ai moins continué la musique. Et là, je suis revenu parce que j'ai avec des amis d'enfance, on a créé un label et on s'est dit, vas-y, on se met à fond dedans. Et donc, c'est le premier projet où je suis vraiment tout seul là.
Je voulais revenir un peu à tes débuts. Mm-hmm. Question, elle est super simple. T'as commencé comment le rap?
Le rap, j'ai commencé comme tout le monde. J'ai écouté des albums.
Ok. Quel album?
Par quoi j'ai commencé les albums qui m'ont le plus marqué, je pense qu'il y avait Assassin que j'écoutais pas mal quand j'étais petit, avec l'album Touche d'Espoir, c'était des gens qui étaient plus vieux que nous qui nous écoutaient ça. Et après, il y a eu Rof, hein, Rof, La Fierté des Nôtres, ça nous a...
Okay.
Sont même, enfin, je te dis Rof, Booba, enfin toute cette période-là.
Ça, c'est les influences que t'as pu avoir.
Ouais, bah, c'était les mecs... Puis Sniper aussi, Sniper, on s'est mangé pleine gueule aussi. Et en fait, à force d'écouter les mecs rapper, je pense qu'on s'est tous essayé, quoi. On s'est dit, ouais, on a commencé à apprendre les textes par cœur, puis après à refaire notre propre texte, et avec des trucs plus ou moins réussis, et aujourd'hui, on en est là, quoi.
Ok, et j'entends souvent des personnes me dire que des fois, la musique m'a instruite, d'où le rap m'a instruit, en fait, sur certains albums, certains artistes. Est-ce que toi, t'as ressenti ça déjà dans ton plus jeune âge, où il y a des mecs, à travers leur discours, ils t'ont appris des choses,
ah
ou en
ouais.
tout cas ils t'ont dévoilé des choses?
Ouais, complètement. Bah déjà il y a un côté en fait souvent il y a ce truc là avec le rap, le message, on a l'impression que ça doit éduquer les...
Ouais, j'y viens justement, voilà. Après sur toi, ouais.
Et en fait moi je suis moins d'accord avec ça parce que bah, il y avait d'ailleurs Booba qui disait je suis responsable de mes paroles, pas de tes actes, et je suis tout à fait d'accord avec lui, sauf que au final c'est vrai que moi il y a certains artistes qui véhiculent des valeurs, on va dire. Il y avait des valeurs où on se disait, ah, ok, il faut se comporter comme ça. Il y avait des codes qui reprenaient les codes que nous, on appliquait dans nos vies. Où on se disait que bah oui, on est d'accord avec l'artiste et que de toute façon, on l'écoute et que ce qu'il nous dit, ça colle avec notre vie. Donc forcément, il y a un truc. Après, il y a des mecs comme Rossé, par exemple, ou même Ayam, hein, qui m'ont déjà fait sortir le dictionnaire, parce qu'il y avait des mots, je ne sais pas du tout ce que c'était.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que sur ton projet, on voit que ça rappe fort, il y a vraiment du boom-bap, où ça kick, quoi.
Merci.
Mais il y a aussi des sons, je pense à Tribu notamment, beaucoup plus mélodieux, où on voit qu'il y a une recherche un peu voilà, de choper une mélo, notamment sur les refrains.
Ouais.
Toi, tu dis quoi? Tu dis que tu peux tout tester, que t'as pas de limite là-dedans, est-ce que artistiquement, justement, ce mélange, un peu, tu parlais du rap conscient, et maintenant, on est dans un truc peut-être un peu plus festif, est-ce que pour toi, tu te dis que, voilà, t'es encore dans tes projets qui vont suivre, de tester d'autres choses, de pas te cantonner?
Ouais, toujours.
Okay.
Toujours, de toute façon, on est dans du test constant, et puis ce qui est hyper intéressant, c'est que moi, quand je vois un truc, j'entends que j'aime bien, et je me dis, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir si moi, je peux le faire.
Okay.
Donc après des fois ça marche pas, et des fois il y a des trucs qui ressortent où on se dit ok, là ça sonne bien et autant le proposer. Le but c'est d'avoir la palette la plus large, et je pense que c'est en cherchant qu'on trouve.
Avant la sortie de ce projet, on le rappelle Comanche, t'as sorti une série de freestyle Tomahawk,
si je Tomahawk, quoi.
Okay, il y en a eu 4, 5
5.
5. Là, est-ce que, en fait, cette série de freestyle, c'était, si je puis dire, simplement marketing, ou en fait, toi, c'était vraiment pour le freestyle, parce qu'on le sait, parce que tu étais déjà un peu connu de, des open mic sur Paris. Mmh. Est-ce que vraiment c'était ton délire de revenir à la base et pas de refrain, et ça kick fort sur du boom bap, ou alors c'était simplement, enfin simplement, efficacement, du moins pour présenter un projet ?
Tomahawk, c'était une série de freestyle qui était faite à la base pour annoncer le projet, mais surtout on voulait se confronter à la vidéo, parce que moi j'ai jamais fait de clip, j'étais pas trop à l'aise avec l'image, c'est quelque chose que je connaissais pas. Et au final, avec des amis d'enfance qu'on charbonnait sur le truc, on a réussi à sortir des visuels. Il y a eu du challenge aussi, parce que c'est quelque chose qu'on connaissait pas, donc le but c'était de promouvoir la musique avec de l'image et donner plus de chance au produit.
Donc on voit dans tes textes que c'est souvent très imagé, tu utilises beaucoup de métaphores. Je voulais savoir si justement, parce que tu nous parlais du clip juste avant, toi quand t'écris, est-ce que t'imagines déjà un lieu, un cadre, une couleur qui peut peut-être t'inspirer, ou alors ça c'est quelque chose qui vient vraiment après, par la suite, t'es d'abord dans l'écriture avec une instru, je sais pas, quel est ton processus un peu pour écrire, fait, si c'est tout le temps le même?
Ouais, non, voilà, c'est, comme tu dis, c'est pas tout le temps le même, c'est... En fait, ça dépend. Tout dépend de la musique. Des fois, c'est l'instru qui va me mettre dans une ambiance où je vais me dire, ouais, rien que l'instru, c'est comme une bande-son d'un film, en fait. Donc, forcément, je me dis, ah ouais, ça, faut clipper, faut que je fasse un morceau où je raconte une histoire, quelque chose. Mais en général, maintenant, dès que j'écris, j'ai toujours un clip en tête. Mais une fois que j'ai écrit, pour me dire, au cas où, une fois qu'on a réécouté avec mes gars, on se dit, ouais, bah, celui-là, il vaut le coup de le clipper. Okay. Donc au moins j'ai déjà une trame dans la tête.
Tes projets qui arrivent, ça s'annonce comment? Donc on sait qu'il y a le confinement, est-ce que ça ralentit déjà un peu tes projets ou pas forcément?
Non, pas spécialement. Non, je trouve même que ça renforce le truc parce que j'ai plus de temps.
Ok, ça te casse pas dans un...
Non. Okay. C'est juste, c'est vrai que pour faire des scènes, pour voir vraiment les gens pour qui tu fais de la musique et qui te suivent, c'est vrai que c'est un peu plus chiant. Mais après, non, au contraire, je trouve que ça ressemble vraiment sur l'importance de la musique. Que t'es chez toi, t'écris, là, je maquette beaucoup plus chez moi, on travaille un peu plus à distance, c'est vrai, mais par contre, on a un côté où tu te ressens plus sur la musique.
En espérant pouvoir te retrouver sur scène, donc après le confinement, on peut te retrouver quelle plateforme?
Pour me retrouver sur Facebook, Instagram, OPCN Musique.
Ok. Ça marche.
Sur YouTube aussi. Et là, on va essayer de sortir un clip prochainement, là. Si on peut, avec les tournages et tout, c'est un peu plus compliqué. Et on prépare le prochain EP, là, très vite.
Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accordé un peu de temps.
Merci à vous.
Et puis, nous, on se quitte sur Tribu, donc un titre de l'OP Comanche, qui est sorti, je rappelle, en février dernier, et qui est toujours dispo, c'est ça ?
Toujours dispo, toujours d'actu.
Merci beaucoup, Obsen.
Merci à vous.
Bonne soirée.
Merci, toi aussi.
J'étais pas sûr du son, Jaja m'a dit ça me colle des frissons. Donc je les règle, elle m'a pris pour un con. Je les mets pas trop au fond, donc je les tège et tu connais les règles. Si tu parles sur mon nom, n'attends pas que je t'appelle. T'as fait la tam, t'es rayé du cartel. Que des sourds dans le carnet, que des vrais dans le phone. On partage le plat si la recette est bonne. Amitié ne se fait pas en un jour. Tout comme ville de Rome, et si le sol se dérobe, y'aura toujours une gargouille pour retenir la veste. Si dans une affaire le soldat se mouille, il fera tout pour que le clan puisse éviter l'averse. Tout pour l'équipe, pour mes gens, tout pour ma clique, pour mon crew. Ceux qui me soutiennent constamment, bah quand m'édite quand c'est du lourd. C'est pour eux que je lâche la mélo, pour tous mes loups dans la mêlée. Qui se déboîte le crâne au meuro, sans dents dans le bas, en rêvant d'un palais. Pour mes boules de nerfs, mes détendus, mes coupables, mes prétendus. Qui déboule sur l'avenue, sont à fond, assis dans une gauve à foncer. Pour mes sécos et mes dodus, mes grandes gueules qui peuvent se taire. Vent l'OPJ, motus, bouche cousue. Chut, frère, ne trahis pas, frère. Pour eux, j'ai de l'amour, de l'estime. On se parle peu, car on connaît les signes. Si un réussit, tout le monde aura vaincu. Tout pour mon clan, pour ma tribu. Tout pour mon clan, pour ma tribu.
Tout pour mon clan, tout pour mon clan.
Tout pour mon clan, pour ma tribu.
Pour ma tribu, pour ma tribu.
Pour mes refaits, mes camarades, avec qui je trinque, avec qui je traîne. Y'a que les photos qui ont pris de l'âge.
Rien n'a changé, on reste les mêmes.
Tout pour mon clan, pour ma tribu.
Et merci à Adrien Mathieu pour ce passionnant reportage sur le rappeur OPNC Obscène. Il est 19h passé de 45 minutes sur Radio Campus Paris.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Et nous accueillons à présent Pauline dans le studio qui va nous conter une petite histoire de règles.
Sens que ça fait du bien de pouvoir en parler. Car oui, parler de ces machins, ces trucs, ces anglais, les miecoses et en Italie ou encore Michel est en ville au Canada, on voit que parler de ragnagna dans notre société, bah, c'est pas une tâche facile.
Mais Pauline, tu vas nous parler de quoi en fait ?
Bah, je vous propose d'écouter ça d'abord.
Depuis quelques années, à travers le monde, une jeune génération de femmes s'est emparée du thème des menstruations.
Les règles, vous le disiez, encore un mot tabou.
Les ragnagnas, les ragnouflettes, les machines, que de mignonnes expressions.
Moi déjà, ma mère m'avait dit que les enfants, ça se faisait par le genou, alors...
C'est une sorte de poche de sang sale qui se vide chaque mois.
Eh bien, je suis navrée, Wendy, mais je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever.
Et oui, les règles, ce liquide menstruel qui s'apparente plutôt à celui d'un rouge coquelicot qu'un bleu schtroumpf, comme on pouvait le voir dans les publicités de TV, suscite toujours autant d'émoi auprès des adultes comme chez les plus jeunes. Pourquoi tant de gêne, me diriez-vous, si cela concerne la moitié de l'humanité ? Et si ce tabou venait du fait qu'on n'osait pas en parler ouvertement ? Car finalement, ce n'est qu'en brisant les codes et les préjugés qu'une possible évolution pointe son nez.
Et alors Pauline, comment la libération de la parole sur ce tabou se concrétise-t-elle en 2020 ?
Eh bien à l'heure des réseaux sociaux, et en partie grâce aux divers mouvements féministes et surtout de la nouvelle génération, les choses changent. On en parle, on les montre, comme la youtubeuse Shera Kerensky, voire on les utilise comme dans l'art, par exemple le peintre Jen Lewis ou encore l'écrivaine Nancy Houston qui déclare, je cite, « Je saigne donc je suis ». Une liberté aujourd'hui sans tabou et sans dégoût, mais comment arrivés là ? Remontons un peu le fil de l'histoire pour comprendre comment ce tabou a pu évoluer. Comme tout ce qui est inconnu fait peur, les règles ont longtemps été associées aux mythes, aux croyances, voire même à une maladie, comme le pensent Hippocrate et Aristote à la Grèce antique. Dès l'Antiquité, la femme indisposée fait peur, et on lui attribue sinon des pouvoirs maléfiques, en tout cas une forte capacité de nuire. Pour Pline l'Ancien, au 1er siècle, je cite, « Une femme qui a ses règles fait aigrir le vin doux par son approche. »
Carrément.
Dans ses écrits, la femme, je vous jure, a des allures de sorcière. Elle inquiète d'autant plus que la médecine a longtemps ignorer les origines de la menstruation. Car oui, il faut attendre le milieu du 19e siècle pour connaître comment enfin fonctionne une ovulation. Même si là encore, le discours médical reste flou et teinté de croyances superstitieuses.
Ah oui, comme quoi par exemple ?
Bah pour n'en citer qu'une, l'idée que ce sang, toujours impur, doit être évacué ou même qu'il contrôlerait l'esprit de la femme jusqu'à la rendre folle. Car le corps de la femme est perçu pendant des siècles comme imparfait et le sang menstruel comme impur. Idée très présente dans la plupart des religions monothéistes. Dans l'Ancien Testament, par exemple, deux pages entières sont consacrées rien qu'aux femmes. Toute une liste d'interdits, par exemple si la femme a des rapports pendant ses règles, son enfant risquerait d'être aveugle, lépreux, voire même roux. Car oui, tout est lié, évidemment.
C'est intense, hein. C'est vraiment intense.
C'est étrange, mais c'est le cas pourtant. À cela s'ajoute d'ailleurs l'accès aux protections quasi inexistantes pour les femmes les plus pauvres, tout comme l'accès à certains lieux sacrés, toujours à cause de superstitions.
Et c'est toujours le cas malheureusement dans certains pays, aujourd'hui comme en Inde ou au Népal. Mais ça sera pour une autre chronique, n'est-ce pas Pauline ?
Oui, le sujet est bien trop gros. Et oui, finalement, on peut voir que les règles sont plus liées à une vision de la femme et à sa place dans une société qu'à une époque bien précise. Car ce malaise vis-à-vis des règles est surtout lié à un contexte patriarcal, avec une volonté de contrôle exercée sur le corps des femmes et de la fécondation. A l'inverse, si l'on regarde dans les sociétés qui sont égalitaires entre les sexes, les menstrues sont plus accueillies, comme par exemple chez les Mozo, une ethnie matriarcale au sud-ouest de la Chine, où les femmes sont libres de leur corps qui est vénéré. Un sang nourricier et honoré, signe de vie et de fertilité.
Alors on pourrait penser que ça y est, à l'heure actuelle, les règles sont désormais bien acceptées et comprises.
Et non, ou pas tout à fait. Enfin, aujourd'hui encore, dans certains pays, certaines traditions, où la place de la femme fait toujours débat, le sang des règles reste tabou.
Eh bien, merci pour cette chronique. Il est 19h, presque passé de 50 minutes sur Radio Campus Paris. Vous écoutez Jusqu'à Nouvel Ordre, bien entendu.
Jusqu'à Nouvel Ordre, du lundi au jeudi, à 19h, sur Radio Campus Paris.
Nati vous propose maintenant de faire un tour du côté d'Hollywood avec le coming out d'Eliot Page. L'interprète de Vanya dans Umbrella Academy Club et star du film Juno a annoncé le 1er décembre dernier être transgenre et non binaire dans un message émouvant et engagé. Son annonce a été suivie d'une vague de soutien par ses collègues d'Umbrella Academy. Même la plateforme Netflix a félicité l'acteur. Une nouvelle ère en termes de représentation des personnes transgenres est-elle en train de s'ouvrir à Hollywood ?
Il est trop tôt pour l'affirmer avec certitude. Pourtant, Eliot Page pourrait bien être l'élément déclencheur pour des producteurs et studios qui souhaitent faire du vrai contenu transgenre friendly. C'est l'analyse de Scott Mendelson, critique de cinéma, dans le magazine économique Forbes. Eliot Page est un acteur mondialement connu et renommé. Sa célébrité date d'avant sa transition et se base sur une carrière de plus de 20 ans. Peu d'acteurs et d'actrices transgenres ont atteint un tel niveau de célébrité ou s'en approche. En fait, il n'y en a aucun. C'est une réalité. Les acteurs trans ont du mal à être castés. Les rôles proposés sont souvent stéréotypés et limités à la condition trans. Ce manque de représentation se ressent dans les séries et les films américains. C'est ce que révèle une étude du groupe de défense GLAAD, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, sur 110 films de grands studios sortis en 2018. Aucun d'entre eux ne comptait de personnages transgenres ou non binaires. Et lorsque des personnages trans sont portés à l'écran, encore faut-il que ces rôles ne soient pas attribués à des personnes cisgenres. Eddie Redmayne dans Danish Girl, Jared Leto dans Dallas Buyers Club, Elle Fanning dans About Ray, la liste est longue.
And the Oscar goes to Jared Leto.
Pourtant, des acteurs trans, il y en a. Le problème ne se situe donc pas là. C'est du côté des réalisateurs et des producteurs qu'il faut regarder. Leurs arguments pour expliquer le manque de représentation, quand il y en a, sont d'ordre économique. Les acteurs trans sont peu connus, non bankables, et ne permettent pas de financer des films. C'est un cercle vicieux.
Mais alors qu'est-ce qu'un acteur bankable ?
Alors qualifier un acteur de bankable, c'est signifier que celui-ci rapporte de l'argent, qu'il est rentable. Voilà le changement qu'a introduit Eliot Page. C'est un nom, si Eliot Page est d'accord, pour un projet à gros budget sur des questions de transgenre. Un nom qui fait connivence autant pour les investisseurs que pour la lutte des personnes trans. Il faut espérer qu'à terme, le travail d'Eliot Page permettra de faire avancer les choses avec d'autres actions comme l'Inclusion Rider. Cette clause contractuelle assure la représentation des minorités dans les productions. Dès 2023, elle devra être respectée par les films si ces derniers veulent concourir aux Oscars. En tout cas, on notera déjà un changement introduit avec Eliot Page. Celui-ci va continuer d'interpréter Vianna pour la 3e saison d'Umbrella Academy, une personne trans interprétant une femme cis, du jamais vu.
Et merci à Nati pour cette chronique. Ainsi se termine Jusqu'à Nouvel Ordre. Avant de se quitter, remercions nos invités du soir, Elsa Trémère et Anne-Sophie Saint-Père d'Amnesty International France pour leur expertise, ainsi qu'à toute l'équipe de cette émission sans qui nos micros resteraient bien tristes. Merci tout d'abord à la fabuleuse Anaïs Martinez à la coordination et à l'irremplaçable Colin à la réalisation ce soir. Merci aussi à Tom de m'avoir épaulé et à Pauline et Nati pour leur superbe chronique. Dans une poignée de minutes, ce sera au tour de l'équipe d'Extérieur Nuit, l'émission cinéma de Radio Campus Paris, de prendre place devant nos micros. Restez à l'écoute, chers auditeurs et chères auditrices. Belle soirée à vous sur le 93.9 FM.